Donc je vais introduire, vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un message sur pourquoi soutenir Israël aujourd'hui, et c'était en prémisse de ce qu'on nous allait entendre aujourd'hui. Donc j'ai demandé à, nous étions plusieurs à aller à Jérusalem pour Marche pour les Nations et pour Global Prayer Call. Et donc il y a un retour qui va être fait par Manuela, Marie-Christine et Jean-Marc. Et donc ça sera un trio. Et on a vraiment sur le cœur de faire participer l'Église à ce qui se passe, à la compréhension de ce que Dieu est en train de faire par rapport à ce lien fondamental entre l'Église et Israël. Donc voilà, Marie-Christine qui commence. Oui, c'est toi qui commence, Marie-Christine. Voilà. Voilà. T'as pas besoin?
Oui, parce que ça, c'est au cas où. J'ai vraiment gardé les choses dans le cœur. Voilà. Alors d'abord, en arrivant en Israël, donc moi, ça faisait plusieurs années que j'y étais plus allée. Hein. J'étais allée une première fois en 2011. Donc ça faisait 6 ans et demi. 6 ans et demi. Oui, c'est ça. Non, 7 ans et demi. Oh là. Enfin. Non, 6 ans et demi, parce que c'était en automne 2011. Voilà, c'est ça. 6 ans et demi, ok. Donc voilà, à ce moment-là, je n'avais pas la même perception. Donc je me suis rendu compte que je ne voyais pas les choses de la même manière. Ce qui m'a frappé en arrivant en Israël, c'est la prospérité de cette nation. C'est vraiment une nation bénie. Les routes sont en très très bon état par rapport à la France et même la Belgique, voilà, où j'y vais souvent. Il n'y a pas de comparaison, les routes sont en super état, on voit les champs qui sont cultivés, etc. Alors on sait que c'est un pays sec, donc ça demande de l'irrigation, etc., mais ils ont ce qu'il faut. On sait que les hôpitaux sont vraiment une bénédiction pour pas seulement les Israélites, mais aussi toutes les personnes qui voyagent à Jérusalem, quoi. On nous a dit en plus en arrivant là-bas que entre 2002 et 2013, il y a eu 8 scientifiques israéliens qui ont reçu un prix Nobel pour leur travail. Donc voilà, au niveau de la science, il y a des grandes choses qui se font en Israël, quoi. Et économiquement, bon, il y a plein de choses, y compris la technique. Hein. C'est eux qui ont fait... Alors, j'avais déjà eu l'occasion de voir fonctionner le logiciel OASE. C'est un GPS, hein, qui est gratuit et qui est vraiment très, très performant. J'avais eu l'occasion de le voir lors d'un covoiturage que j'avais fait vers Paris. Et OASE, ça vient d'Israël. C'est un Israélien qui l'a fait. C'est une société israélienne qui l'a faite. Donc voilà, ils font des tas de choses qui bénissent pas seulement leur nation, non seulement ils sont bénis, mais ils bénissent les autres nations, ils bénissent les autres peuples. Ils sont vraiment une bénédiction pour le monde. Et ça m'a vraiment touché. J'ai pensé à toutes ces choses, ça m'a vraiment touché. Voilà, donc ça, c'était juste un préambule. Alors sinon, on avait donc la marche qui était le mardi après-midi, mais on arrivait déjà le dimanche. Donc depuis le dimanche soir jusqu'au mardi midi, on avait la conférence qui préparait la marche. Et dans cette conférence, il y a eu tellement de choses que je ne peux pas tout redire, mais moi, ce qui m'a frappé personnellement, c'est surtout le côté historique, l'historique des relations entre Israël et les nations. Ça a commencé au tout début de l'histoire de l'Église. Hein. Au tout début de l'histoire de l'Église, en fait, les Juifs avaient une manière de penser, une culture, toute une manière de vivre qui était complètement différente des chrétiens des nations qui étaient en train de venir à Jésus, quoi. Donc dès le début, il y a eu vraiment une grosse différence entre eux. C'était un peu comme des frères, mais qui étaient tellement différents que bon, ils avaient du mal à s'entendre. Et j'ai cru comprendre que c'est le terrain que l'ennemi a utilisé pour essayer de diviser. L'ennemi savait que Israël était appelé en tant que frère aîné quelque part, mais ça n'a rien à voir avec la parabole des deux fils, hein, en tant que frère aîné. Israël était appelé pour pour être béni lui-même, mais pour être une bénédiction pour les nations, pour être vraiment un exemple pour les nations de l'amour de Dieu, et voilà, pour que les nations puissent suivre l'exemple d'Israël quelque part, et venir à Dieu. Et donc ça, c'était le plan de Dieu. Dieu savait très bien qu'Israël ne serait pas forcément fidèle, mais il l'a appelé, il l'a choisi, son choix souverain. Et nous, en tant que nation, donc on est venus au Seigneur et on a vraiment accepté ce mensonge de l'ennemi, comme quoi ben, les Juifs avaient rejeté Dieu, avaient rejeté Jésus, ils avaient même tué Jésus, ils avaient tué le Fils de Dieu. Et à cause de ça, c'était un péché impardonnable. Dieu les avait jugés, Dieu avait donné le mandat d'Israël à l'Église. C'était l'Église qui était devenue le fils aîné quelque part. L'Église avait supplanté Israël. Et l'Église, ça allait même loin, parce que de mensonge en mensonge, hein, en fait, c'est tout un enchaînement de mensonges. On commence par accepter un mensonge qui est déjà gros, mais voilà. Et puis ensuite, on en accepte de plus en plus, ça va de plus en plus loin. Donc c'est... Voilà. Ensuite, on en est arrivé à croire que, ben, il fallait brûler les synagogues. Et on a vu une vidéo, mais ça m'a fendu le cœur. On a vu une vidéo donc, qui montrait, au fil des siècles, depuis les tout débuts de l'histoire de l'Église jusqu'à tout récemment, hein, les pogroms et les fois où on a brûlé les synagogues. Et bon, c'était flashant parce qu'on voyait des feux sur la carte du monde, quoi. Au fil des siècles. Et le nombre de feux qui se sont allumés en France au fil des siècles, mais ça m'a fendu le cœur, quoi. On est vraiment, voilà, c'est pas les autres nations, hein, les pogroms en Russie, etc. Non, c'est chez nous aussi. On les a accusés de répandre la peste. On a donné toutes sortes d'accusations contre eux qui étaient complètement injustes, évidemment. Et on les a accusés de vouloir le mal, de vouloir détruire les chrétiens, alors qu'eux, ils n'ont jamais voulu tuer un seul chrétien. C'est, voilà. Et bon, donc ce mensonge a grandi, et ça a fait la persécution contre les juifs et l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, en fait, c'est pas seulement agir contre les juifs, c'est aussi tout ce qui est indifférence, etc. Et... Bon, quand j'ai vu ça, donc cet enchaînement de mensonges qui nous avait conduit à non seulement haïr les juifs, mais à vouloir les détruire en pensant que c'était ce que Dieu voulait. Le plus gros mensonge, c'était de croire que Dieu voulait que les chrétiens tuent les juifs, que c'était exercer le jugement de Dieu, que c'était juste de faire ça. C'est vraiment prendre Dieu pour un père fouettard qui veut punir son peuple, qui veut le faire tuer par les autres fils et filles. Voilà, c'est vraiment donner une image de Dieu qui est affreuse, quoi. Le plan de Dieu est irrévocable. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alors c'est sûr que à ces temps-là, enfin au tout début de l'histoire de l'Église, cette parole-là n'avait pas encore été écrite, puisque ça fait partie du Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des tas d'exemples où Israël s'est vraiment écarté de Dieu, a vraiment fait des choses terribles contre Dieu. Il y a eu des siècles entiers d'idolâtrie, etc. Israël se détournait vraiment de Dieu. Et chaque fois, donc Dieu leur permettait d'aller en esclavage dans une autre nation, ça s'est produit, mais à chaque fois, il les rappelait, il se souvenait d'eux, il les rappelait. Il ne les avait pas oubliés pour toujours. C'était, voilà, le plan de Dieu est irrévocable. Les dons, l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est vraiment manifeste dans la parole de Dieu. Donc bon, rien qu'en voyant ça, on aurait pu éviter tout ça, mais bon, c'est comme ça. Dieu a permis ces choses aussi, parce que Dieu a un plan encore plus grand. Donc pendant tous ces siècles, donc on s'est vraiment complètement écarté du plan de Dieu, on a complètement perdu de vue qui Dieu est, et moi je me suis vraiment posé la question, bon, ça ne nous a pas été dit très clairement, mais je me suis vraiment demandé, mais pourquoi ? Pourquoi on a réagi comme ça? Et bon, j'ai pensé à l'exemple de David, le roi David. Avant qu'il devienne roi, donc il avait été appelé comme roi par Dieu, c'était très très clair, il allait devenir roi à la place de Saül. Mais il avait vraiment dans le cœur que l'appel de Saül était irrévocable. Il fallait attendre le temps de Dieu, il fallait respecter loin de l'Éternel. Donc même si Saül, pendant des années, a cherché à tuer David, et les Juifs n'ont pas cherché à tuer les chrétiens, même si Saül cherchait toujours à tuer David, David continuait à croire de tout son cœur que Saül était loin de l'Éternel, qu'il y aurait un temps où lui, David, allait devenir roi à la place de Saül, mais qu'il ne devait pas précipiter les choses. Et au moins à deux reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül et il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu toucher loin de l'Éternel. Il lui a juste fait savoir qu'il avait été là tout près de lui et qu'il aurait pu le tuer, mais il ne l'a pas du tout touché, parce qu'on ne touche pas loin de l'Éternel. Et le peuple de Dieu, c'est loin de l'Éternel, c'est le peuple élu par Dieu. Alors on pourrait se dire, pourquoi eux ? Mais c'est le choix de Dieu. Et ce n'est pas un choix pour nous brimer, pour nous opprimer. On n'a pas à être jaloux d'eux. Ils portent un fardeau de devoir montrer aux nations comment Dieu qu'on vive en tant que peuple, mais c'est un fardeau énorme, sans compter les persécutions que ça leur a attirées, mais c'est vraiment un fardeau énorme. Donc c'est un choix dont ils peuvent être fiers, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Donc on n'a pas à être jaloux de ça, on a simplement respecté le choix de Dieu, et puis recevoir avec reconnaissance ce qu'Israël nous donne, parce qu'il n'arrête pas de nous bénir d'une manière ou d'une autre, et puis nous-mêmes, prier pour eux, pour qu'ils puissent revenir pleinement dans le sein du Père. Parce que quand les deux seront réconciliés, mais ce sera énorme. Ce sera vraiment ce que Dieu voulait. Dieu veut que les deux ne fassent qu'un seul, que le mur d'inimitié soit cassé et que les deux soient réunis. C'est ça que Dieu veut. Et Jésus l'a dit très clairement. Et ensuite, les apôtres ont continué à le dire. Donc voilà, on est très différents d'eux et on a vraiment besoin de regarder comment ils vivent, pas de les imiter, de se croire juifs, etc. Il n'est pas question de judaïser, mais de regarder comment ils vivent et de se remettre en question. Parce que eux, en fait, ils ont toute une culture qui est orientée sur Dieu. Et en particulier, un énorme respect de la parole de Dieu. Ils étudient la parole de Dieu depuis tout petit, ils la prennent par cœur, et ça imprègne toute leur vie. C'est vraiment époustouflant. Ça imprègne toute leur vie. Rien que la manière dont ils font la sécurité. Pourtant, il y a des menaces bien pires que la menace de terrorisme en France. Il y a vraiment des énormes menaces. Il y a un nombre incalculable de bus qui ont sauté, etc. Enfin, il y a vraiment des choses graves qui se passent là-bas. Mais la manière dont ils font la sécurité dans les aéroports, c'est incroyable. Ils n'ont pas besoin de vous faire vider votre bouteille d'eau, etc. Ils sont très vigilants, mais avec une paix parfaite. Ils vérifient les choses, mais sans aucune agressivité, sans aucune exigence inutile. C'est vraiment... Rien que ça. Ça montre que, OK, ils sont vigilants, mais ils gardent toujours en mémoire que Dieu est avec eux et Dieu les protège, quoi. Il y a vraiment cette foi qui est imprégnée profondément. Alors c'est sûr que ces siècles où ils ont vécu les persécutions, etc., ça a laissé des traces dans leur cœur, c'est clair. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin non seulement de se repentir, mais de prier pour eux, pour qu'ils puissent être guéris de tout ça. Il y a une mémoire, Il y a une mémoire de tout ce qu'ils ont vécu qui est dur à vivre. Mais d'un autre côté, il y a une telle grâce, un tel désir de bénir les autres. C'est waouh, c'est époustouflant, quoi. Quand ils nous voyaient marcher dans les rues de Jérusalem pendant la marche, en tant que Français, c'était lourd parce que la France n'est pas du tout aux côtés d'Israël et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. La France n'arrête pas de prendre des positions contre Israël. Mais il n'y avait pas du tout... ils étaient prêts, ils étaient reconnaissants de ce qu'on soit là. Ils en avaient les larmes aux yeux. Il n'y avait pas d'animosité contre nous. La seule animosité qu'on a vue, c'est de certains juifs orthodoxes contre le gouvernement israélien, pas contre ceux qui étaient là, contre le gouvernement israélien. Donc on a vraiment à chercher, mais pourquoi on a accepté ces pensées ? Parce que, en fait, même si on ne pratique pas des actes d'antisémitisme, la plupart du temps, on est indifférent. Et voilà, et on laisse faire les choses et on ne prend pas position. Et bon, je le dis pour moi-même, hein, pendant des décennies, mais j'ai pas du tout pris position pour Israël. Ça fait relativement peu de temps que je le fais activement, quoi. Et voilà, donc cette indifférence, c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi dans notre cœur. Mais ça va beaucoup plus loin que simplement être soit indifférent, soit carrément contre Israël. Ça va beaucoup plus loin. Ça a des conséquences terribles. Ça aussi, ça m'a beaucoup frappé. David a choisi de respecter Saül en tant que oint de l'Éternel. Et ensuite, quand ça a été le temps, le ministère de David a vraiment été béni. David n'était pas parfait, il a fait d'énormes erreurs, hein, Bathsheba, etc. Il a fait d'énormes erreurs, mais son ministère a été vraiment béni. Il a été, voilà, le roi dont on se souvient le plus, le roi d'Israël dont on se souvient le plus. Et de même, si on choisit de vraiment respecter le choix de Dieu, c'est Dieu qui a choisi Israël, il est souverain, il sait pourquoi. Et si on refuse catégoriquement, on renonce, il faut vraiment renoncer à ça, à la moindre jalousie, au moindre pincement de cœur, mais pourquoi eux et pas nous, etc., etc. Et si on décide de prendre position pour le peuple d'Israël, eh bien on va voir aussi des bénédictions. C'est vraiment la parole de Dieu qui le dit, hein, les nations et les personnes qui se tiennent aux côtés d'Israël, qui bénissent Israël, vont être bénis, enfin seront bénis, sont bénis, alors que les nations ou les personnes qui soit sont indifférents, soit sont carrément contre Israël dans les faits, eh ben seront maudites. C'est grave, quoi. Alors qu'est-ce que ça a produit en France en particulier, en Europe plus largement et aux États-Unis aussi ? Eh ben ça a produit le doute permanent, parce que en fait, si on rejette Israël, ben on rejette aussi cet amour de la parole de Dieu qu'ils ont et ce respect de la parole de Dieu. Et c'est plus que du respect, c'est vraiment la crainte de la parole de Dieu, c'est d'agir en fonction de la parole de Dieu dans toute leur vie. C'est pas une loi qu'ils imposent aux autres, parce qu'il y a vraiment la liberté religieuse en Israël, vraiment, vraiment, y compris envers l'islam. Il y a vraiment la liberté religieuse, donc c'est pas quelque chose qu'ils imposent aux autres, mais c'est quelque chose qu'ils vivent, la crainte de Dieu dans toute leur vie. Et voilà, donc si on rejette Israël, ben on rejette aussi ça, quelque part. Et on se rend peut-être pas compte, mais on a vraiment à s'interroger, mais quelle place je mets à la parole de Dieu dans ma vie ? Est-ce que déjà je la médite régulièrement ? Est-ce que ça a vraiment un impact dans ma vie ? Ou est-ce que c'est juste le dimanche et puis voilà, quoi ? On a chacun à se poser la question, donc déjà ça. Et puis tout le reste, donc si on remet en cause la parole de Dieu, ben on remet en cause aussi que les promesses de Dieu sont irrévocables. On le remet en cause pour Israël, on le remet en cause pour nous aussi. Donc ça nous amène au doute. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Est-ce qu'il, voilà, doute pour nous-mêmes, pour notre nation, pour tout. On doute, on relativise ce que Dieu a dit, on relativise la vérité. Il n'y a plus rien n'est sûr, quoi. Et ça amène au désespoir. Au désespoir qui peut aller jusqu'au suicide. Donc s'il y a autant de suicides parmi nos jeunes, ben, c'est ça aussi. Si Dieu n'est pas fiable, si ses promesses ne sont pas justes, ben, alors il n'y a pas d'avenir. Il y a les problèmes économiques, il n'y a pas d'avenir pour nos jeunes. Par contre, si Dieu est fiable, ben, tout est changé, quoi. Donc voilà. Donc tout ça peut paraître assez négatif, mais... on a eu un temps, je crois que c'était lundi matin, je ne sais plus, où on s'est vraiment repenti. Oui, c'était lundi matin. On s'est vraiment repenti après avoir vu cette vidéo, donc avoir vu que, en fait, toutes les nations étaient impactées. Bon, moi, je l'ai vu pour la France, mais il y en avait un peu partout, des feux qui s'allumaient dans cette vidéo au fil des siècles, quoi. Donc, voilà, après avoir vu ça, on a eu un temps de repentance où on s'est regroupé par groupe, par nation. Et on s'est repenti pour notre nation. Et moi je crois que c'est la première fois où j'ai sangloté comme ça pour ma nation. Repentance, et puis en même temps, mais crier grâce pour la nation. Grâce pour la France. Et donc on a eu ce temps de repentance. Mais ensuite, le reste de la conférence, mais il y a petit à petit l'espérance qui est revenue, vraiment par rapport à la France. Hein, ça, c'était repentance et proclamation. Mais ensuite, il y a l'espérance qui est revenue. Et le summum, c'est quand on a eu, donc après la marche, j'ai eu la joie de pouvoir participer à une journée de Global Prayer Call. Et donc, Luc a dû vous en parler. Hein, j'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais il a dû vous en parler. Donc, on a prié d'abord pour Israël et ensuite, on a commencé à prier pour les nations. Et on a eu le témoignage des gens du Guatemala, des intercesseurs du Guatemala. Et au début, mais le président du Guatemala, il aurait voulu que son ambassade soit mise à Jérusalem, mais il y avait tellement d'obstacles, ça paraissait impossible. Et ils ont persévéré dans la prière, et finalement, ça s'est fait. Voilà. Et ça m'a donné un immense espoir pour la France. L'espérance est vraiment revenue pour la France. C'est plus seulement la proclamation, mais c'est vraiment l'espérance que c'est possible. Si on tient bon dans la prière, si on continue à proclamer que la France va prendre position pour Israël, c'est possible. Et si on veut que ça se produise, ben il faut d'abord que l'Église de France se réveille, qu'elle prenne conscience de toutes ces choses, qu'elle se repente par rapport à tous ces siècles d'antisémitisme, qu'elle se repente par rapport à tout ce qui reste d'antisémitisme actuellement, qui est larvé, qui est caché, qui est en profondeur, mais qui est là, qui est bien présent dans l'Église de France en général, et même peut-être ici, hein, parce que voilà, on est humain et ça, voilà, l'ennemi nous a menti, et on a vraiment besoin d'en prendre conscience, de s'en repentir, pour nous-mêmes d'abord, pour l'Église, et puis ensuite pour la France, c'est trois étapes, quoi. Voilà. Et alors, tout est vraiment possible, parce que le plan de Dieu, c'est que l'Église et Israël puissent être réunis, que les nations et Israël puissent être réunis dans le cœur de Dieu. Hein, que, en fait, on est ses enfants. Israël a été appelé comme fils aîné, mais nous sommes aussi les enfants de Dieu. Il veut qu'on soit une seule grande famille. Israël a sa place dans la famille de Dieu, mais nous avons aussi notre place. Et c'est important qu'on puisse reconnaître quelle est notre place, nous tenir aux côtés d'Israël pour les soutenir et prendre aussi notre rôle à nous, qui est différent. Donc recevoir les bénédictions d'Israël, mais prendre aussi notre rôle à nous et les bénir de notre côté. Et voilà, être une vraie famille. Une famille, ben, on se soutient mutuellement. Voilà. Merci.
On est vraiment, merci beaucoup. Parler avec ton cœur, et c'est super. Juste avant que Jean-Marc prenne la parole, ce qui m'a touché, c'est la vidéo dont tu parles, où on voit l'antisémitisme se répand dans le monde, des pogroms. C'est une vidéo qui correspond à l'expansion de l'évangélisation. Donc l'évangélisation dans le monde correspond à la multiplication des pogroms au niveau historique depuis les premiers siècles. Donc là, vous voyez très expansion de l'évangile, expansion de l'antisémitisme. Parce que les pères de l'Église étaient antisémites, on l'a vu ça ensemble. Voilà, Jean-Marc, à toi. Donc Jean-Marc faisait partie de l'équipe aussi, et c'était très chouette de l'avoir. Voilà.
Merci. Je vais plutôt lire, parce que sinon je vais me perdre dans ce qu'il a raconté. Bon, tout d'abord, pour rebondir à ce que Marie-Christine a dit concernant la sécurité, ça c'est pas dans les tenues, mais je vais rebondir dessus parce que moi je l'ai vu autrement, parce que en revenant de ce voyage, quand je suis allé à mon boulot, tout le monde s'est inquiété. La patronne est venue. Ah, tu es là, tu es là, tu es là. On a pensé à toi parce que avec tout ce qui se passe en Israël. Et j'ai pu témoigner, deux personnes m'ont dit ça. Oh, Jean-Marc, tu es là. Bon. Et j'ai pu dire que, en fin de compte, la sécurité là-bas, c'est parce que c'est comme si ça fait partie du ça fait partie de la vie là-bas. Il y a de la sécurité partout, sans vraiment le voir comme à Strasbourg où il y a les militaires et les policiers qui se gambadent partout. C'est dans le décor. C'est naturel. Donc effectivement, à l'aéroport, tout ça, c'est naturel. On n'a pas l'impression d'être dans un pays où il y a des guerres, bien qu'il y a plein de choses là-bas, mais on a l'impression que c'est du décor, c'est normal. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse. Je vais commencer comme Marie-Christine, à dire il y a tellement de choses à dire sur ce voyage que ben il faut se limiter. Et je vais me limiter à quatre points. Donc, premier point, c'est dans ce que j'ai vécu, moi, là-bas, au niveau de l'organisateur de cette marche, qui est Jobs Bittner. Donc, le premier point, ça sera sur briser la chape de silence. C'est sur un livre qu'il a fait en français. Et... voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième et troisième point, ça sera deux petites vidéos. Mais des vidéos amateurs, hein, c'est pas des vidéos... Et puis le quatrième point, ça sera un petit témoignage avant mon départ. Voilà. Donc le premier point, c'est l'appel et la conviction d'aller en Israël. Je l'ai eu après la marche de Drancy et j'ai dit à Aude, j'ai dit moi je ressens vraiment d'aller en Israël pour faire cette marche. Donc avec ça, je me suis fixé de lire ce livre avant de partir en Israël. Ce que j'ai fait. Et je l'ai fait dans le but d'être préparé à ce que j'allais vivre à Jérusalem. Donc parmi tous les ateliers qui ont été proposés, j'ai choisi entre autres celui de la chape du silence, donc l'histoire de ce livre. Et donc l'atelier, il a commencé par un long récapitulatif de l'histoire de l'Église de Tübingen, parce que c'est l'histoire de l'église de Tübingen, face à l'antisémitisme et à l'horreur qui a eu lieu dans cette ville. Donc, pour les détails, hein, je ne vais pas m'étendre, pour les détails, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, c'est très instructif. Voilà. Et je suis sûr que si nous penchait plus profondément sur le passé de nos villes et de nos villages, nous aurions bien des surprises parfois douloureuses. Et l'expérience de cette église, qui est montrée dans le livre, montre combien enlever la chape du silence est un éclairage et un extraordinaire moyen de vivre des victoires et des libérations dans nos familles et dans nos pays. Surtout en Alsace, qui est en France, qui est une terre de sang. Hein. Ça a été déjà répété plusieurs fois par des gens, et puis même je crois que tu nous avais partagé qu'il y avait quelqu'un d'un autre pays qui a dit ça, quoi, que la terre de France est une terre de sang. Hein. Ouais. Voilà. Et à travers ça, j'ai découvert l'importance d'élucider mon propre passé, non seulement pour moi-même, mais également pour ma famille et pour mon pays. Et à la fin de cet atelier, on a essayé de partager un peu avec Luc, Manuela et Marie-Christine, de ne pas aller tous dans les mêmes ateliers pour avoir... moi j'étais poussé à aller dans ça, comme je suis un peu dans cette démarche. Et donc, à la fin de cet atelier, on s'est mis à deux. Alors moi, j'aime pas trop ça. C'était déjà quelque chose en soi. Et on a mis en pratique ce que la personne a longuement énuméré dans l'histoire de l'église de Tübingen. Donc, la mise en pratique, moi, j'étais à côté d'un Allemand. Donc, cet Allemand, il a commencé, il a énuméré tous les malheurs de la vie dans sa famille. Il a cité aussi l'exemple d'un ami proche. Et il a demandé pardon. Donc on s'est pris dans les bras, hein, comme nous on fait, hein, des hugs, on s'est pris dans les bras. Et puis il a commencé. Et donc il a demandé pardon pour ce qui s'est fait, ou ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas par rapport à son passé. Il a peut-être réalisé, hein, ça on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais il a peut-être réalisé qu'il y a des choses qui sont liées à l'antisémitisme. Bon, ça, on n'a pas pu en parler. Mais il a demandé pardon, il a remercié Dieu de pouvoir vivre ce qu'il a vécu et pouvoir, en remerciant Dieu, Dieu lui a aussi ouvert les yeux pour intercéder pour sa famille et pour son pays. Hein. Bien sûr, c'est lié à chaque fois. Et donc après ça, le temps imparti était écoulé. Et je n'ai pas pu faire de même avec lui. Donc lui, il a explosé. Et puis la dame au micro, elle a dit, ben, c'est fini, l'atelier est fini. Donc, quand il m'a lâché, quand il a dit à bientôt peut-être, en allemand, hein, et lui il parlait en allemand, il ne parlait pas le français, l'anglais c'était pas, bon, ben, c'était allemand. Donc j'ai compris vaguement tout ce qu'il a dit, mais il parlait, il me prenait moi comme témoin, mais il parlait à Dieu. Hein, donc, à la rigueur, si je n'avais pas entendu. Mais c'est toujours bon, parce que ça fait du bien intérieurement. Et donc, moi, par contre, il s'est passé d'autres choses. C'est que quand il m'a quitté, je me suis mis sur ma chaise et j'étais comme pétrifié sur ma chaise. Je ne pouvais plus bouger. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à... C'était comme un film. J'ai commencé à voir... j'ai intercédé, je pleurais pour ma famille, pour mon pays, pour... Et puis, ça m'a rappelé en souvenir que c'est qu'à l'âge de 47 ans où j'ai rencontré pour la première fois mon vrai père biologique, 47 ans, j'en ai 53, donc ça fait 6 ans. Et il y a 6 ans, je n'avais pas encore ces révélations sur Israël, sur toutes les choses qui allaient se passer. Et donc, ça m'a rappelé à 47 ans, quand j'ai rencontré mon père. Et à ce moment-là, sans le savoir, sans avoir lu ce livre, j'ai commencé à ouvrir un couvercle du passé. J'ai vu que dans ma vie avec mon épouse, mon caractère me faisait rester dans mon coin et m'écarter un peu de tout le monde. J'aimais bien être tout seul. Qu'on ne me dérange pas, moi je ne dérange personne, je fais de mal à personne, mais qu'on me laisse tranquille, que voilà. C'est comme ça, moi je me dis je suis bien, je fais de mal à personne, je fume pas, je bois pas, j'embête personne, je critique personne, voilà. Et ça, ma femme, elle me... pour que je sorte un peu, quoi. Donc ça a commencé dur, avec l'histoire de mon père. Et donc, le fait de rester dans mon coin et de vouloir faire semblant de ne pas faire de mal à personne, ça a sauté. Ça a sauté à ce moment-là. Et maintenant, je suis toujours en chemin. Hein. Je ne suis pas encore au bout. Par contre, j'ai réalisé, en voyant mon père, justement, à 47 ans, que j'étais en train de devenir comme lui. C'est-à-dire, lui, il a terminé sourd et complètement séparé de tout. Et en le voyant, et dans le film que je voyais quand j'étais pétrifié sur ma chaise, je voyais ça. Je voyais que je continuais à être séparé du monde, à me séparer de tout. Et puis, là, je reprends le fil. Et rajouter Israël dans tout ça m'a ouvert les yeux à moi. Je me suis dit, c'est vraiment primordial de bénir Israël et le peuple juif. C'est vraiment le point principal, hein, et c'est ce qui ressort un peu du vécu qu'on avait là-bas, et également de ce qu'on est en train de vivre au haut des mois sur Strasbourg avec l'association IIF, Israel is Forever Alsace. On a rencontré un docteur juif, et puis il se passe, mais ça c'est un autre sujet, mais il se passe des choses extraordinaires avec les juifs, hein. Extraordinaires. Voilà, donc ça c'est le premier point. C'était, hein, bien sûr, c'est raccourci parce qu'il y a eu tellement de choses puissantes. Que... Donc les deuxièmes points, donc, si tu peux faire le film 2, à mon avis, ça doit être celui-là. Attends, stop. Voilà, juste expliquer. Hein? Ah, pardon. Juste avant qu'il commence, pardon, j'ai oublié. Encore ? Pardon. Voilà. Donc, juste avant que ça commence, donc, ça sera en anglais. Aude et moi, on a essayé de traduire au mieux les phrases importantes, hein, pas tout. Donc, s'il y a des petites différences, il y a David, hein, d'autres qui pourront nous, ou Manuela, qui pourront changer. Donc, c'est en anglais. Et que je présente cet homme-là qui est en train de parler, c'est le rabbin Yehuda Glick. Et ce rabbin, il est député à la Knesset, et il était vraiment, il avait le feu. Hein. Il avait le feu. Il était présent pendant toute la marche. Nous, on était derrière, on ne l'a pas vu. Mais avec les photos qu'on a vues, il était présent pendant toute la marche. Et avant la marche, il a fait le tour de toutes les nations dans le stade, enfin dans le pré où on était avant le démarrage. Et bon, la personne à côté, là-bas, c'est un garde du corps. Il en avait deux. Hein. Un dans la salle, en bas, et un là. Il était toujours avec lui. Et puis... j'ai appris aussi, bon ça c'est une parenthèse, pendant mon jour avant de partir, je me suis promené avec des amis et puis j'ai appris que l'année d'avant, il s'est fait tirer dessus, 2 balles dans la poitrine. Et bon voilà. Et vu le feu qu'il a, il dansait, mais ça j'ai. Il dansait dans la foule avec tout le monde. C'était vraiment trop. Donc vous allez voir un court, hein, ça dure 2 minutes, un court moment, juste pour que vous voyez un peu le style de personne que c'est. Et je vais essayer de traduire deux, trois phrases qu'il a dit, qui étaient très importantes pour nous. Voilà, donc tu peux y aller.
So at these moments, I just want to talk the words that God puts in my mouth, but the words are not to you because you are full of love, the words are to Him. God, thank you so much for the privilege to live to this day that we feel the love from these people. The media always brings how much the world is busy with delegitimizing Israel, and how the world is busy with hate, and how the world is busy with all kinds of words that are not respecting the fact that Israel has a right to live. But we know that the strength of light and the strength of love is much more strong than the strength of dark and the strength of hate.
Ça, c'est la main de Manuela.
Those who follow and saw
with just a few people, and it's growing to hundreds of people, and growing to thousands of people, and growing to tens and hundreds and thousands of people. And it started in small little places, and now it's been hundreds of cities all around Europe of people who are learning history and not denying history and understanding that we have the right to regret what things that were done in the past, and we have the right and we have the obligation to take those crises and build a new future of hope and of shalom.
La photo, tu peux la mettre? Bon, c'est pas grave, la photo elle va venir. Donc je vous traduis. Voilà. Voilà. Il a vraiment posé naturellement dans le parc. C'était vraiment pour moi. Donc, entre autres, voilà ce qu'il a dit. Merci so much. Je le mets so much parce que en français on peut pas le traduire. Mais so much, tellement, on ne sait pas comment. Merci Seigneur pour le privilège de vivre cette journée où nous ressentons l'amour de ces personnes ici. Alors que les médias montrent sans cesse comment le monde s'active à répandre la haine en ne reconnaissant pas à Israël le droit de vivre. Mais nous savons que le pouvoir de la lumière et de l'amour est bien plus fort que le pouvoir des ténèbres et de la haine. Et il termine en soulignant notre devoir et responsabilité de participer au mouvement de ces marches. Voilà. Et maintenant, la deuxième vidéo, qui est plus courte, hein, celle-là. Celle-là, c'est aussi vidéo amateur. Hein. Mais c'était trop fort, trop fort. Donc là, c'est quand on marche. Hein. Vous voyez cette femme-là? Donc là, on continue. Et voyez ce qu'elle fait maintenant. C'est trop fort, trop fort. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu une femme israélienne prendre le chauffard et sonner dedans. Ça, c'était trop fort. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc moi, ces deux temps forts, hein, ils restent marqués. Et on ne peut que terminer en voyant ces deux vidéos. Oui. Ça sert à quelque chose de bénir Israël. Oui, ça sert à quelque chose. Oui. Et le quatrième point, pour terminer, c'était juste avant que je prenne le bus pour Tel Aviv, le jour de mon retour. Il y avait deux jeunes Israéliens, une fille et un garçon. Ils n'étaient pas forcément ensemble. Hein. Ils étaient à l'abribus, ils étaient assis. Et tout d'un coup, il y a deux Américaines qui arrivent avec leurs grosses valises qui font 1m50 de haut. Hop. Et ils viennent à l'abribus et ces deux jeunes, sans attendre quoi que ce soit, ils se sont levés, se sont mis de côté pour laisser la place aux deux personnes. Et ces deux femmes, ils ont ignoré tout à fait ce qu'ils avaient fait. Les deux jeunes. Et à cet instant, le Seigneur m'a dit, tu vas parler à ces jeunes dans le bus. Et alors je l'ai fait. Mais c'était déjà un miracle en soi, parce que vu mon passé, que je vais être dans mon coin, pas déranger personne. Donc le Seigneur m'a dit fortement, tu vas les voir. Et je l'ai fait, je lui ai dit en anglais, je lui ai d'abord demandé s'il comprenait l'anglais, il m'a dit oui, et je lui ai dit, j'ai vu ce qui s'est passé dans l'abribus, sous l'abribus, et je vous demande pardon, parce que pour ces deux femmes qui n'ont pas été correctes avec vous. Et les yeux d'un des jeunes ont brillé et il m'a dit « I appreciate », ça veut dire « j'apprécie ce mot ». Et puis voilà, c'était tout. Moi je dis « Amen » pour d'autres expériences comme celle-là, parce que oui, ça sert à quelque chose de bénir Israël, parce qu'il faut savoir que on bénit Israël, mais Israël nous bénit aussi. Voilà.
Merci Jean-Marc, merci Marie-Christine. Comme vous avez pu le voir au travers déjà de ces deux témoignages, c'est que le Seigneur travaille, la révélation augmente, nos cœurs sont touchés, et alors que nos cœurs sont touchés, les cœurs des nations sont touchés. Et on le dit souvent, et c'est Anne souvent qui le dit, réalisons dans quelle période nous sommes, et nous sommes vraiment dans des temps kairos, nous sommes dans une fenêtre de l'histoire très particulière, et ce que nous vivons en tant que personne, si nous le réalisons, alors nous pouvons travailler dans ce que Dieu est en train de faire et rentrer dans notre destinée individuelle, collective, en tant qu'Église et en tant que nation. Et il y avait beaucoup de choses, j'ai dit Seigneur, je ne pouvais même pas l'écrire, donc j'ai dit Saint-Esprit, tu m'accompagnes pour que je puisse donner les bonnes choses pour aujourd'hui. J'aimerais simplement reprendre, donc nous on a été aussi à Global Prayer Call, comme l'a dit Marie-Christine. Alors d'abord je voudrais dire, c'est en novembre où le Seigneur m'a convaincue qu'il fallait aller en Israël. C'est quand on avait eu ce témoignage de cette personne qui était venue parler de la fête des tabernacles, que le Seigneur nous avait envoyé de Colmar, et on a réalisé une fois encore qu'il n'y avait pas de Français, ou très peu, une toute petite poignée de Français qui représentaient la France à la fête des tabernacles. Et vous le savez, on l'a dit souvent ici, les fêtes juives, ce sont des rendez-vous de Dieu. Et les rendez-vous, imaginez, Luc me donne rendez-vous samedi à 18h. Ah, moi, je dis, oh ben non, samedi 18h, zut, j'ai autre chose. Moi, j'irai dimanche à midi. Qu'est-ce qui se passe? On rate le rendez-vous, n'est-ce pas? Et là, j'ai réalisé que nous, Français, on dit toujours, oh oui, Dieu dit, montez à la fête des tabernacles à telle période, mais nous, on dit, oh ouais, mais là, c'est trop cher, hein, parce que tout le monde y va, hein, donc tous les hôtels sont pleins, n'est-ce pas? Et puis du coup, les agences en profitent, et puis du coup, EasyJet monte les tarifs, ils sont doubles, ouais, bon, bah c'est pas grave, hein, on peut y aller avant, on peut y aller après. Et donc, vous avez plein de Français qui vont en Israël, mais tellement peu qui vont au rendez-vous de Dieu. Et là, j'ai eu tellement honte. D'ailleurs, cette fois-là, j'avais demandé publiquement. Et publiquement, on a dit, ben, nous irons. Et on savait qu'il y avait deux rendez-vous dans la fenêtre très particulière dans laquelle nous sommes. C'était donc les 70 ans et la fête des tabernacles. Mais on n'y allait pas juste pour nous, Luc et Manuela. C'était vraiment ce fardeau d'aller pour représenter la France. Et là, c'était vraiment, Seigneur, en tant que Français, on veut être là à tes rendez-vous. Mais comme l'a dit Marie-Christine tout à l'heure, et vous avez pu le sentir dans son témoignage, combien on avait, et je dis maintenant, je vais le dire à l'imparfait, parce que la honte, ça vient pas de Dieu, on avait honte de la France. Et je peux vous dire qu'il y a eu tout un travail que le Seigneur a fait dans mon cœur avant de partir, je dirais les 3 semaines qui ont précédé. En particulier, suite à nos différentes démarches de Drancy, on a maintenant un petit réseau, et j'avais reçu un article de 5 pages pour des choses qui se sont passées il y a pas si longtemps, d'actes antisémites vraiment graves, à un haut niveau, et ça m'avait tellement, tellement affectée que dans mon sommeil, j'en pleurais. Et là, le Seigneur s'est révélé à moi et dans mon rêve, alors que je pleurais, il y a un homme grand, style Vito, grand nounours, mais 2 fois plus grand, type tunisien, avec des cheveux mi-longs, un peu grisonnant, un nez bien aquilin. Et il me dit, est-ce que votre époux vous aime? Et là, je dis, oui, mon époux m'aime. Et il dit, est-ce que vos parents vous aiment? Je dis, oui, mon père m'aime, ma mère m'aime. Et quand j'ai raconté ce rêve à Aude et à plusieurs, je me mettais à pleurer jusqu'à ce que, alors qu'on était dans la maison de prière, je comprenais que le père me disait, mais mon amour est plus fort. Comme l'a dit ce rabbin, la lumière est plus forte que les ténèbres. Et le Seigneur était en train de me dire, mais mon amour est plus grand. Moi, j'aime la nation de France et j'ai payé pour elle. Et 2 jours plus tard, on avait notre rencontre à la maison de prière, toujours, mais cette fois par rapport à Israël. Et avec Anne, je pars dans un champ prophétique, c'était vraiment l'amour du Père. Et j'avais cette profondeur de l'amour du Père qui était descendue dans mon esprit plus profond. Et là, j'étais dans les bras du Père, mais en regardant vers l'extérieur. Et ce champ d'amour monte, et tout d'un coup, j'étais prise de nausée. Et je savais que la nausée, c'était lié à ce péché de la France qui... pour moi, était nauséabond. Et je dis, Père, et maintenant je fais quoi avec ça? Et il me dit, tu lèves tes yeux vers moi. Comme Moïse quand il était dans le désert avec le serpent d'airain, et où il y avait tous les serpents et le peuple, je ne sais plus pourquoi maintenant, mais peu importe. Et simplement le fait de lever les yeux. Et alors j'ai levé les yeux, et là, cette nausée est partie. Et le dimanche, donc 2 jours après, nous partions pour Israël. Et alors, j'ai pu porter cet immense drapeau sans aucune arrière-pensée, sans sentiment de honte pour la France, parce que je comprenais, parce que le Seigneur me montrait que nous sommes encore dans ces temps de grâce, nous sommes encore dans les temps de la dispensation de la grâce, et sa grâce est plus grande. Voilà, ça c'était donc la préparation pour partir en Israël. Et ensuite, j'aimerais, donc on était à Global Prayer Call, et moi, donc, à la marche des tabernacles, j'ai été, moi, à l'atelier, évidemment, de Global Prayer Call. Je voulais encore entendre Harald. D'abord, j'ai voulu aller à celle des marches de vie. Et puis, le gars m'a dit, mais bon, de toute façon, si vous voulez faire une marche de vie, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de venir à l'atelier pour ça. Donc, voilà. Du coup, je me suis retrouvée, j'ai pu aller à l'autre. Et donc, d'abord, j'aimerais vous donner les 3 fondements de l'ADN de Global Prayer Call. L'un, c'est Genèse 12, verset 1. Et dans Genèse 12, verset 1, ça nous parle de la répartition où Dieu... Alors, est-ce que je suis dessus? Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc déjà, Dieu a choisi un homme et de cet homme, alors qu'il a tout laissé, il en a fait une patrie. Et ensuite, il y a un autre passage, c'est par rapport, alors est-ce que c'est Exode 19.3? On va voir tout de suite si c'est ça. Bon, sauf que là, c'est pas lui qui le dit, mais peu importe. Merci. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu pourrais mettre la suite s'il te plaît et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes et vous ai amené vers moi » et la suite « Maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples car toute la terre est à moi. » Mais c'est un autre passage où il dit, c'est sur l'héritage, où il dit que Israël est sa terre d'héritage. Donc il a choisi un homme, il lui a donné une terre, il l'a amené dans cette terre, et il y a dans ce passage où il dit qu'il met les frontières pour les nations, il partage la terre. Et la terre d'Israël est l'héritage de Dieu. Et il est dit aussi bien sûr que les nations sont l'héritage de Dieu. Et si l'on regarde le plan de la rédemption, et ça c'est quelque chose qui m'a profondément touchée, donc d'abord, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est dans la repentance et l'humilité que les choses vont pouvoir changer dans cette fenêtre dans laquelle nous sommes. Et je relisais mes notes de Ruben Berger, donc c'est Ruben Berger qui est intervenu en premier. Et il disait, vous chrétiens gentils des nations, vous avez fait votre part dans la repentance. Et ça, vous venez de voir ce qu'a dit le rabbin de la Knesset. Et en fait, c'est quoi cette part dans la repentance? C'est que nous venons vers Israël. Ça fait des années où le Seigneur dit « Consolez, consolez, consolez mon peuple ». Où nous, chrétiens des nations, nous allons vers Israël et leur disons « Mais les promesses sont pour vous. L'Éternel ne vous a pas oublié et il va vous racheter. » Et le fait qu'il voit les nations année après année, parce que nous y étions déjà en 83, l'ambassade chrétienne est née en 80. Depuis 1980, des nations se réunissent chaque année à la fête des tabernacles et disent, et on se marche dans la ville et vont voir la Knesset et disent, les promesses sont pour vous. Nous croyons que Dieu se tourne à nouveau vers vous. Il ne vous a pas oublié. Les promesses, il va les accomplir. Et donc, Ruben Berger écrivait et disait, a dit, vous avez fait votre part, mais nous maintenant, il faut que nous fassions la nôtre. Priez pour nous les juifs, donc ce sont des juifs messianiques. Ils disent, nous devons faire la nôtre. Et pour la première fois, je réalisais que nous avons entendu toute cette histoire des pères de l'Église qui étaient pétris d'antisémitisme, n'est-ce pas? Et qui ont transmis l'antisémitisme, mais c'était déjà une autre réaction, mais ça nous appartenait pas, c'était pour le peuple juif, où en fait, eux ont persécuté l'Église. ils ont persécuté l'Église, en fait. La première Église, elle était juive. Et les Juifs qui étaient sous la loi n'ont pas reçu la grâce. Et en fait, on sait, et c'est très bien dit dans Romains 9, que le Seigneur a aveuglé son peuple pour un temps, pour que les nations puissent rentrer dans la grâce. Et les combats, Romains 11, pardon, et le combat que nous avons et qu'on appelle la dispensation, qui date depuis que Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité jusqu'à la fin des temps des nations, et parce qu'Israël est revenu sur sa terre, nous savons que le temps des nations touche à sa fin, c'est que tous entrent dans ce temps de la dispensation de la grâce. Et c'est quoi cette dispensation de la grâce? C'est de croire qu'on ne peut pas être sauvé par nos propres efforts. Et pourquoi les Juifs religieux ont persécuté l'Église messianique à l'époque? Parce que pour eux, ils disaient, il fallait accomplir la loi. Et c'est que par la loi, et c'est que la loi, et la loi. Et en fait, Dieu a montré par l'histoire d'Israël qu'on ne peut pas accomplir la loi. Il n'y a pas un homme, une femme, un enfant qui peut accomplir la loi. Christ seul a accompli la loi parfaitement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, celui qui dit, c'est celui qui dit qui est. Alors que l'Église a condamné Israël en disant « Dieu vous a oublié tout », un esprit, un autre esprit que l'esprit du Père est rentré, c'est l'esprit de Babylone, qui est la recherche de pouvoir, la recherche de puissance, la recherche des finances. Et ils ont dit « On va y arriver !» Et alors là, on a eu l'Église qui a pris toute la place. Nous, on sait faire. Israël a échoué, mais nous, on va y arriver. Nous, on peut accomplir. Et là, on le sait, dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu une vraie Église, bien sûr, qui a été là et qui a été persécutée, elle aussi, siècle après siècle, qui a compris tout doucement les nouvelles révélations que Dieu redonne. Et c'est Philippe Jauret qui avait fait, tu te souviens, Alain, Luc, cette immense, cette merveilleuse, ça c'était il y a une vingtaine d'années, l'histoire de l'Église à l'envers. On voit, c'est comme si on revient à l'Église primitive, que l'Église s'est égarée loin de Dieu et tout doucement, elle est en train de revenir à la révélation de l'Église messianique, de la première Église. Et en fait, et ça dans Romains, ça nous est très bien dit, où il est dit que Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance afin que tous puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Et donc vraiment, ce que Dieu est en train de faire dans cette fenêtre actuelle qui ne va pas durer éternellement. C'est vraiment encore le temps de la grâce, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps où des juifs et des non-juifs, il veut faire cet homme nouveau, où il est en train de préparer l'épouse. Et donc là, je voudrais continuer avec ce que nous disait Harald, que je pense on invitera ici. Donc il montre que cette terre d'Israël et ce peuple, Dieu l'avait choisi, il l'a constitué lui-même dès le début. Ensuite, il parle aussi de Matthieu, où il est parlé des nations boucs et des nations brebis. Et donc, il y a ce passage aussi où il dit « Ceux qui bénissent Israël seront bénis » et que toutes les nations sont bénies en Israël. Et là, Marie-Christine a donné plusieurs exemples, je ne vais pas le faire maintenant, mais j'en ai encore découvert ce matin, enfin si, je vais vous le dire. On est en connexion avec le pasteur Melvin, pour ceux qui connaissent, du Honduras, qui est donc responsable de tout un réseau d'écoles, et il m'écrit la semaine dernière qu'il envoie deux de ses enseignants en Israël pour être formés dans toutes sortes de technologies et de choses, et il me dit « Est-ce que tu connais ?» Je dis « Ben non, je ne connais pas. » Du coup, il m'a envoyé ce matin, écoutez, tenez-vous bien, ça s'appelle Machav, je crois. Donc, il paye tous les frais à des personnes qui viennent des différentes nations qui sont en voie de développement et il les forme à leurs frais. Ils ne payent juste pas leur transport pendant 2 ans, que ce soit dans la technologie, dans l'irrigation, dans l'agriculture, dans comment faire une start-up, dans l'éducation. Je vous dis pas, ça fait rêver quand j'ai vu tous les titres. J'ai failli réveiller Luc ce matin pour le lui lire. Bref, pour dire que il y a ce que disait Marie-Christine. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Et quand on voit Israël aujourd'hui qui est revenu sur sa terre et comment il se comporte au milieu de la persécution, franchement, on se dit, nous, l'Église, on peut revoir notre copie. Comment ils réagissent à la haine? Comment ils... Mais c'est incroyable. Je veux dire, on leur tire dessus, ils bénissent. Je veux dire, il y a l'Iran qui menace de bombes atomiques et eux, ils écrivent au peuple iranien, nous sommes avec vous alors que vous êtes sous l'oppression, puisqu'on nous empêche officiellement potentiellement de vous aider, eh ben nous, par les réseaux sociaux, on va vous donner les moyens d'avoir de l'irrigation dans votre pays. Comment savoir pour purifier votre eau, pour que vous ayez de l'eau? Comment faire pour avoir de l'électricité? Et là, vous vous dites, waouh, ils appliquent la parole, comme disait Marie-Christine. Ils ont grandi avec la parole. Ils savent que Dieu dit, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est ce qu'ils font maintenant qu'ils sont revenus dans leur terre. Et en même temps, ils ont besoin de nos prières. Donc voilà, il y a donc cette deuxième chose, c'est les nations qui vont être bénies. Et la troisième chose dont il parle, Harald, c'est les fameuses paraboles des derniers temps dans Matthieu 25, où il parle entre autres des nations boucs et des nations brebis. Et ça parle du jugement en fait des nations, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est pour les nations. Et là, pour moi, je suis revenue d'Israël avec une très grande espérance. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, ce qu'il nous expliquait, c'est que nous avons une année unique. C'est une combinaison de deux années de jubilé. Les 50 ans de Jérusalem se sont achevés. Et là, nous avons les 70 ans de la nation d'Israël. Et nous demandons, et donc pour eux, c'est vraiment cette double part. C'est comme si le Seigneur disait, les temps sont là et je veux sauver, et je veux sauver un grand nombre. Et c'est quoi le jubilé? Le jubilé, c'est la libération de tous les esclavages, et c'est retrouver nos héritages, et retrouver notre terre. Et ça, c'est Dieu qui le fait de sa volonté souveraine. Et non pas à cause de ce que nous, on a pu faire ou pas. Mais nous avons besoin de comprendre quelle est la valeur du sang de Jésus. Et malheureusement, l'Église, trop souvent, ne sait pas et n'a pas compris la valeur du sang. Et donc, elle est en train encore de se battre, à essayer, elle, de gagner quelque chose. Mais là, c'est niette, ça marche pas. C'est que par la grâce. Et ce qui est valable pour nous individuellement, c'est valable en tant que nation. Et donc c'était un privilège pour nous d'y être pour ces 70 ans, de porter la France sur nos cœurs et de prier pour les nations, donc après cette marche, et de prier pour les nations selon le cœur de Dieu et de savoir que tout est possible. Et j'aimerais finir par là, c'est Rick Readings qui disait, nous sommes encore dans des temps où aucune nation n'est dans une position de non-retour. Parce que nous sommes encore dans le temps de la dispensation. C'est encore le temps où Dieu sauve et où tout peut changer. Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Quand Jésus sera revenu, ça sera trop tard. C'est maintenant, parce que c'est par la foi. Il ne nous est pas dit, tu vas être sauvé quand tu verras Jésus. Le juste vivra par la foi. Donc c'est avant que Jésus ne revienne qu'il nous demande de nous positionner. Et donc, alors, où est-ce que c'est? Alors c'est magnifique de voir ce qui se passe aussi en Afrique. Alors il y a les nations d'Afrique qui commencent à revenir vers Israël. Et du coup, comment Israël les aide? Comment il les forme par rapport à l'irrigation? Tout ce que je disais tout à l'heure. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour prier pour nos nations. Aucune nation n'est un cas désespéré. Prions pour nos nations dans l'unité. Prions pour qu'elles s'alignent dans la louange. Le Seigneur nous dirige. Prions pour qu'elle s'aligne avec Israël. Et dans la louange, Dieu nous dirige. Soyons attentifs dans la louange. Dieu restaure la louange. Le Seigneur nous donne des éléments pour arrêter les attaques de l'ennemi. Ne laissons pas le découragement ni la déception nous gagner. Prions Dieu, pas selon nos positions politiques, mais selon la perspective du ciel. Alors soyons à l'écoute, dans l'adoration, déclarons ce qu'il nous demande, pas plus. Prions-le avec persévérance, jusqu'à ce que nous voyons son travail être accompli. Nous serons déçus si nous prions selon nos pensées. Et prions dans l'unité. Nous sommes dans la saison du soudain de Dieu. Dieu agit rapidement et soudainement. Il va se servir de leaders gouvernementaux de façon surprenante, comme des Cyrus. Dieu veut nous libérer de systèmes maléfiques. Ces systèmes peuvent être brisés par l'intercession dans l'humilité et l'unité. Dieu nous a parlé de nous aligner avec la droiture, la justice et Jérusalem. Righteousness and justice, Jerusalem as the center of his government on earth. Donc, c'est-à-dire la justice et Jérusalem comme le centre de son gouvernement sur la terre. Détournons-nous de nos mauvaises voies dans l'unité, l'humilité et prions pour notre nation. Nous sommes dans la saison d'espoir. Et là, quand on dit le gouvernement de Jérusalem, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Et en fait, c'est là où l'on comprend que la rédemption dont nous avons entendu parler, que nous avons cru, que nous avons vu par la foi, elle commence par Israël. Le rachat de la terre commence par l'accomplissement des promesses en Israël. Et derrière, c'est les nations. Mais quand on voit les promesses s'accomplir pour Israël, cela veut dire que Dieu accomplit les promesses pour les nations. Alors ne perdons pas ce privilège d'aller en Israël et d'encourager le peuple de Dieu, de faire partie de ceux qui ont dit « Consolez, consolez mon peuple ». Oui, le Messie vient. Oui, vous allez le voir. Oui, il vous sauve. Et ne nous lassons pas de prier pour le peuple juif. Parce que ça, le Seigneur aussi nous a profondément montré. Avec Luc, entre autres, on vient de lire un roman historique religieux de Abbé Cassis, pour ceux qui veulent le lire, et qui est une fille d'un rabbin du Talmudique, et qui nous ramène dans le Moyen-Âge, à Paris, au moment des grandes persécutions et de l'Inquisition. Et alors on comprend comment Israël se retrouve aujourd'hui. Ils sont pas unis, on peut prier pour leur unité. Et c'est ce que disait ce Ruben Berger. Il disait « Priez pour Israël ». Et il disait « C'est la gloire qui va amener l'unité en Israël ». C'est comme dans l'Église. C'est pas nous, par nos propres forces, qui allons amener l'unité dans l'Église. C'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui amène cette unité. Donc prions pour Israël, prions que la gloire de Dieu vienne sur cette terre, alors qu'une partie déjà, plusieurs avant chacun, mais que la gloire de Dieu vienne et que ce peuple soit restauré et uni. Et quand on va le voir là-bas, eh bien, cela se fait en même temps dans les nations. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. C'est tout simplement incroyable. Et je voulais vous dire... Oui, et donc concrètement aussi, j'aimerais finir par quelque chose de concret. Ça peut m'arriver moi aussi. Gloire à Dieu. Comment la repentance et l'humilité? La repentance, on l'a entendu combien de fois? C'est quoi la repentance, Véronique? Pardon? Oui, mais encore, Rachel? Alors, Anne? Oui? Oui, Marie-Christine? Se tourner, partir dans l'autre sens? Quelqu'un d'autre veut encore dire autre chose? Voilà, s'humilier, revenir de tout cœur à Dieu, changer de direction, demander pardon, tout ça est vrai, chaque fois des petites parties. Mais si on s'humilie, qu'on demande pardon à Dieu, mais qu'après, dans le naturel, nous ne changeons pas de sens et on commence pas à marcher autrement, eh ben ça reste des vœux pieux, mais ça n'amène pas le changement. Le changement, voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire, nous, aujourd'hui, pour changer? Alors, je peux vous dire que quand on est parti là-bas, eh bien, que je pense aux marches de vie depuis un moment qu'on prie pour ça, eh bien, j'étais agressée par des craintes, n'est-ce pas? Et c'est la crainte qui nous tient souvent, des craintes de l'islam, des craintes de ceci, des craintes de cela. Donc, comment on peut faire? Alors, les marches de vie, c'est quelque chose de très simple. Donc, la marche de vie, c'est quoi? C'est simplement marcher. Bien sûr, on prévient d'abord nos politiques, on demande l'autorisation à la mairie, et voilà. Et on va faire une marche à des dates particulières ou pas, d'un lieu à un autre, pour manifester notre soutien à Israël. Donc, une très bonne nouvelle, il y en a une qui est prévue à Mulhouse. Et les réunions de prière ont commencé, pour ceux qui sont intéressés. Donc, c'est des réunions de prière qui ont été ouvertes à la porte ouverte, déjà deux fois. Il y en a une troisième le 10 juillet, pour ceux qui veulent venir. Et donc là, il va y en avoir une première au mois de novembre qui va être faite à Mulhouse, depuis, il y a un centre Dreyfus jusqu'à la mairie. Et nous, on pensait, sur Guéviller, on pourrait très bien le faire depuis le cimetière de Jungholz jusqu'à la synagogue de Guéviller. Donc ça, c'est une des choses que l'on peut faire et que l'on va organiser. Bon, on la fera après, je pense, celle de Mulhouse, à moins que Dieu nous conduise autrement. Mais ensuite, il y a aussi des soutiens concrets que l'on peut faire. Quels sont nos amis juifs que l'on connaît ou israéliens que l'on connaît en France? Comment les soutenir? Et là, j'ai reçu ce matin ou hier, c'est Aude, je crois, qui me l'a transféré, une lettre de la CAI. Donc c'est cette association Amis d'Israël qui d'ailleurs organise cette marche de vie. Eh bien, vous savez qu'il y a eu énormément de petits, oui, mais qui ont été provoqués par des cerfs-volants, par des ballons d'hélium, etc. Et les surfaces qui ont brûlé dans le sud d'Israël sont incroyable. Donc il y en a qui ont perdu leurs troupeaux, il y a des volailles qui ont été asphyxiées, et sans compter vraiment tous les dommages. Alors quand vous savez, bon là on n'a pas Werner, mais le travail que ça représente, déjà dans des lieux comme ils étaient, qui étaient désertiques, pour replanter, pour faire repousser, etc., quand vous avez ces choses qui se passent, alors non seulement ils ne maudissent pas, mais ils bénissent. Ils renvoient, eux, des cerfs-volants avec des messages d'amour, etc., avec des chocolats, des bonbons. Mais n'empêche que dans l'autre sens, les incendies augmentent et augmentent encore. Donc là, on a la possibilité de les soutenir en envoyant des lettres et en faisant des dons. Et on s'est demandé depuis longtemps, en tant qu'Église, comment on pourrait bénir Israël. Je crois que là, nous sommes dans un temps stratégique où nous pouvons faire une offrande particulière et l'envoyer pour cela, pour dire « nous nous tenons avec vous et nous sommes avec vous ». Et dans notre identité, on ne comprend pas tout, la révélation va augmentant, mais le Seigneur des deux, il en fait un. Israël a eu une lourde responsabilité et ils l'ont payé très cher de garder la Torah. De garder la Torah, ça leur a tout coûté et ça leur coûte encore beaucoup. Et nous sommes au bénéfice de leur fidélité. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu au travers d'eux. Et quand on voit ce qu'ils ont souffert, on s'est dit... Il est temps que nous, on se tienne à leur côté. Et la parole de Dieu le commande. Ceux qui bénissent, béniront. Ceux qui maudissent ou qui ne prennent pas cas, ou qui méprisent tout simplement, qui sont indifférents, seront maudits. Ce n'est pas juste le fait de maudire. On dit oui, mais moi, je n'ai pas maudit, j'ai juste rien fait. Eh bien, ça va dans le même terme en hébreu. Alors là, voilà. Il y a aussi ce côté de simplement ne pas réagir. Ça fait partie de la malédiction. D'ailleurs, il y a un terme français qui dit « celui qui ne dit rien, consent ». Et pour terminer, dans la chose très concrète aussi, c'est, je vais vous lire donc la vision de Rick Readings. Donc il dit, donc, détournons-nous de nos mauvaises voies dans l'humilité, l'unité, et prions pour notre nation. Nous sommes dans une saison d'espoir. Et voilà la vision. Le lion de Juda se tenait assis sur un échiquier. Chaque carré correspondait à une nation et chaque gouvernement était représenté par un cheval. Tous regardaient le lion de Juda. Et alors qu'une nation s'alignait avec lui... Elle se transformait en brebis et se mettait à sauter par-dessus les autres et les dépassait. Celles qui lui ont tourné le dos se sont transformées en boucs hideux. En boucs hideux. Et en fait, ce que l'on voit, et quand je parlais avec Pasteur Melvin du Honduras, il dit « le Guatemala nous a dépassés et ils ont déjà sauté par-dessus nous ». Il y a cette bénédiction qui vient, et ce que l'on voit dans le naturel, au niveau du social, au niveau de l'économique, au niveau du politique, c'est pas en allant agir sur ce niveau-là qu'on va y arriver, ça n'est plus le temps pour ça, c'est le temps de soutenir et de faire ce que Dieu fait, de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ses regards sont tournés vers Israël, tournons nos regards là où il est, et prions pour Israël, soutenons Israël et alors que nous prions pour notre gouvernement et alors les choses vont changer. Et deux signes d'espoir pour ceux qui suivent I24, dont il y a le président du CRIF qui a vu le président Macron et qui l'a interpellé sur le transfert de l'ambassade française à Jérusalem. Prions pour notre président. Continuons à prier pour notre président. Le Seigneur m'interpellait ces dernières semaines en disant, vous savez cette parole du Nouveau Testament qu'on utilise souvent, ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel, ce qui sera délié sur la terre sera délié dans le ciel. Mes amis, quelle responsabilité ! Si nous jugeons notre gouvernement, nous le lions, est-ce que nous sommes venus comme Jésus pour sauver et pour appeler la bénédiction et libérer ? Ou est-ce que nous allons faire le jeu de l'ennemi de juger et de lier ? C'est le temps pour que l'Église rentre dans sa sacrificature, d'amener la délivrance, de faire la sacrificature, ça veut dire demander pardon, de bénir nos présidents. Il avait utilisé un Cyrus qui était roi de Babylone, c'est ça, et qui n'avait pas du tout une vie sainte, n'est-ce pas ? de Perse. Je veux dire, alors il y en a beaucoup qui critiquent, et je ne veux pas rentrer dans la politique, et je comprends parce qu'il fait des choses qui sont aussi horribles, Trump, mais en même temps, il est utilisé par Dieu pour un alignement avec Jérusalem. Alors si on regarde à notre niveau humain, on s'arrache les cheveux et on n'y comprend rien. Donc nous tenons-nous dans l'esprit, dans ce que Dieu nous demande, sans regarder dans le naturel, sinon on se désespère, et croyons que Dieu agit. Et le deuxième signe, c'était quoi ? Qui s'est passé encore ? Ah si, c'est que le gouvernement français a demandé à Tsahal de venir devant le Parlement français pour expliquer ce qui se passe à Gaza. Et c'est cette semaine, les amis. Et donc, le responsable de Tsahal, je ne sais plus s'il est, ce qu'il est comme grade, peu importe, de l'armée de Tsahal, donc bien sûr, les comment on les appelle, ceux qui interviewent, les journalistes, on dit, la journaliste, je ne sais plus, le dit, ah oui, mais si on te dit ci, si on te dit ça, si on te méprise et cela, qu'est-ce que tu vas faire ? Et dit, non, j'y vais plein d'espoir, parce que pour moi, la France, c'est le pays des libertés, des droits de l'homme, et s'ils nous ont appelés, c'est parce qu'ils veulent vraiment nous écouter, prêter attention. Donc prions pour cet homme, prions pour sa famille, prions pour ce temps des parlementaires. Les choses peuvent encore bouger. Ne croyons pas et ne déclarons pas que c'en est fini pour la France. Non, la France peut s'aligner. Elle est précieuse au cœur de Dieu et le sang de Jésus est plus que suffisant. Et c'est encore le temps pour cela. Donc continuons, persévérons, allons en Israël. Je pense aux jeunes. Harald disait, ils ont un programme pour 500 jeunes pour aller en Israël. Et il disait combien la transmission est importante. Et moi, ce qui me touche quand on voit le rapport du Guatemala qui ont vu ce changement, c'est que tout commence par l'humilité, se respecter les uns les autres dans nos différences et travailler ensemble. Et c'est ce qu'on vit au niveau du conseil, au travers de tout ce que l'on passe. Mais qu'est-ce que le Seigneur éprouve ? C'est nos cœurs, notre humilité, cette capacité de marcher ensemble dans le respect, quoi qu'il arrive, et sachant que c'est pas ce que nous faisons ou nous ne faisons pas qui va nous sauver et sauver notre nation, mais c'est ce que lui a fait. C'est ce que Christ a fait. Et nous sommes encore dans le temps de la dispensation de la grâce. Et tout est encore possible. Alors, continuons, persévérons, regroupons-nous, prions par l'Esprit, adorons, remercions Dieu, prions pour notre gouvernement, restons unis, marchons ensemble dans l'écoute les uns des autres. Chacun porte quelque chose du Seigneur en lui. Nous avons besoin des uns des autres. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes un corps et dans un corps, chaque partie est vitale. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu fais. Et nous t'accueillons, nous voulons continuer à t'accueillir pleinement. Merci pour la révélation qui augmente, mais que cette révélation nous amène à un changement, à une réelle repentance qui est une repentance dans le naturel, dans nos actions. Qu'alors que tu touches nos cœurs et que tu transformes nos pensées, eh bien, tu nous amènes aussi à une transformation dans nos actions. Et nous bénissons encore notre président Macron, nous bénissons son épouse, nous bénissons le gouvernement, nous bénissons le gouvernement de notre bonne ville de Guebwiller, nous bénissons tous les gouvernements régionaux aussi, nous bénissons le Grand Est. Et Seigneur, nous disons que tu es roi, nous connaissons la valeur de ton sang, Seigneur, nous croyons en la valeur de ton sang et nous élevons le nom de Yeshua, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le sang de l'agneau, Seigneur, sur toute cette nation et conduis-nous, Seigneur. Nous voulons continuer à nous laisser conduire par toi dans l'humilité. Conduis-nous ensemble, Papa, afin que ton règne descende sur cette terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que tu sois glorifié.
Alléluia. Alléluia. Eh bien, merci à ce trio. Et j'aimerais dire, je suis vraiment touché par ce que vous avez partagé et interpellé. Et merci. Et Jean-Marc, je sens que tu vis une saison nouvelle. Tu vas sortir de l'ombre. Et je remercie Aude et Jean-Marc. Combien vous faites de kilomètres pour venir ici le dimanche ? Rappelez-moi. 1h30 de route pour venir. Je veux dire, merci. Et Jean-Marc, je suis touché par le fait que tu prennes la parole. Je crois que c'est la première fois ou pas ? Non ? au niveau d'une prédication comme ça, enfin d'une, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pas la dernière. Et Jean-Marc, prépare-toi, on a besoin de toi. Et je suis vraiment touché. Alors, merci. Et on veut continuer à rester alignés par rapport à Israël. C'est pas le dernier dada de l'église Josué. Il y a beaucoup de choses. Mais là, il y a un focus en ce moment, une interpellation du Saint-Esprit. Et on veut être souple dans les mains du Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous donne une bonne après-midi, ne cramez pas trop au soleil, et on se retrouve dimanche prochain, soyez bénis. La famille Gröger aussi qui part en Allemagne, c'est ça, voir la famille ? En Moselle, d'accord. D'accord. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas à partager, on a prié pour toi. Oui, viens.
Non, vas-y.
J'ai été frappée par ce tableau, en tout cas la partie de droite. Et ce qui est écrit, lève-toi, parce que j'ai pas... Ah, pardon. Bon. Donc je disais, j'ai été frappée par ce tableau.